dans les fourrés, la femelle veillait son bébé endormi. B5 se concentra sur le mâle, le plus dangereux. Le chasseur respira lentement pour faire baisser son rythme cardiaque, logea le point rouge sur la masse immobile. Le long corne était maintenant dans sa ligne de mire, l'œil soudain bien ouvert, comme s'il avait senti le danger. Le sabotage des caméras avait provoqué un branle-bas de combat à White Bunch. L'orage avait dressé des dépressions qui rendraient périlleux le vol en rase-motte, et John n'était pas assez inconscient pour s'y risquer face à des hommes armés de fusils automatiques. Les San se chargeant de rapatrier Solana dans la maison, John et Ancon s'étaient rués vers le 4x4 le plus rapide. Les braconniers avaient profité du déluge, de la diversion créée par Virinao et de la neutralisation des caméras pour s'introduire sur leur terre en vue d'abattre les rhinocéros. John craignait d'arriver trop tard. Leur seule chance était que Dina sente la présence des tueurs et détale avec son petit, ou que le mâle dominant les charge, au risque de se faire tuer lui aussi. John filait sur la piste glissante sans se soucier du danger. Le long corne n'était pas sa propriété, mais celle de l'État namibien, un joyau que la réserve la plus sûre du pays se devait de protéger. Au-delà du camouflet, la perte d'un tel animal assurerait la pire publicité au pays. Ancon, à ses côtés, ne disait rien. Les rhinocéros évitaient le territoire des lions, ce qui expliquait pourquoi John ne s'était pas méfié. La mare empoisonnée avait-elle servi de leurre pour que les défenseurs de Wild Bunch concentrent leur surveillance sur des fauves? Les armes étaient vérifiées, huilées, chargées. Un fusil de calibre 338, l'Apua Magnum, capable d'atteindre une cible à 2 km. Un M16 de l'armée sud-africaine dont John avait l'habitude, et son vieux Colt qu'il portait à la ceinture. Il conduisait pied au plancher, le Land Cruiser faisait des embardées, le bas de caisse frappait les branchages arrachés plus tôt par le coup de vent, secoué par les bosses et les nids de poules, mais il ne faiblissait pas. La piste s'enfonçait dans le bush traversé par les phares. Les animaux s'enfuyaient à leur approche, chassés par les bruits de moteurs rugissant dans la nuit. Les minutes passaient. Trop longues. « On n'est plus très loin », annonçait Ancon, penché sur le GPS du drone qui survolait la zone. 2 km encore. Rien en vue, que la nuit et les millions d'étoiles qui l'illuminaient. John ralentit bientôt. Ancon scrutait l'obscurité derrière le pare-brise, sans détecter de petites lumières rouges qui trahiraient la présence d'un ou plusieurs véhicules. Les braconniers étaient peut-être encore sur place, tout feux éteint, armés jusqu'aux dents et les guettant. Mais John connaissait sa réserve, les sentiers empruntés par les animaux qui se cachaient la nuit dans les bosquets. Il coupa les phares tandis que son ami empoignait son fusil à l'arrière, roula à vitesse réduite jusqu'au point GPS. Ancon épiait les mouvements alentour, mais la nuit était comme lui, silencieuse, immobile. John distingua alors une forme à terre, massive. Le vent frais les cueillit lorsqu'ils mirent pied à terre. Une odeur de brousse après la pluie s'évaporait depuis les herbes hautes, plus blanches sous les astres. Les deux hommes approchèrent prudemment, guidés par la lune intermittente qui faisait d'eux des cibles sous les rares nuages. Le San fit le geste de s'arrêter. Il y avait des traces de pneus sur le sol meuble que d'autres pluies effaceraient. Au moins 2 véhicules, dont les marques étaient encore fraîches. John serra les dents. Le long corne gisait à terre, foudroyé par une balle de gros calibre que les tueurs avaient retirée post-mortem au couteau. Sa corne avait été coupée à ras du museau et on l'avait énucléée. L'œuvre d'un autochtone sûrement, qui avait pris soin d'arracher les yeux de l'animal pour se rendre invisible. Ils trouvèrent les autres victimes un peu plus loin, entre 2 bosquets de coussicou. Dina reposait sur le flanc, elle aussi abattue d'une balle en plein cœur, privé de sa corne et 2 trous noirs à la place des yeux. John avait le cœur à vif. Resté auprès de sa mère, le petit rhinocéros était mort après l'attaque. Sa tête affaissée entre ses pattes indiquait qu'il n'avait pas été projeté sur le côté par l'impact d'une balle, mais tué à bout portant. Son museau était intact. Sa corne n'avait pas eu le temps de pousser. Mais comme Dina, 2 orbites noires suintaient de ses yeux crevés. Le jour se levait quand Solana entendit un bruit de moteur. Elle avait dormi par à-coups, empêtrée dans des rêves de pluie battant contre le pare-brise, l'esprit défaillant dans des draps trempés de sueur. Une commotion plus sévère que prévu, que les poudres des chamans San ne guérissaient.